Vous avez Nantes et Saint-Nazaire, Brest et Rennes. Ils se sont mis en réseau et vous constaterez que Rennes, des quatre métropoles, est la seule qui n'a pas été chercher qui que ce soit autour pour s'associer. Au nord, on a Caen Normandie. Alors là, ils sont allés, eux, chercher aussi dans la région, c'est même au-delà du département. Et ça descend assez bas, ça descend jusqu'à l'Orne, hein, Alençon, à mon avis, là, où ils ont constitué un pôle métropolitain. Donc on voit bien qu'autour de chez nous, tout ce monde-là se met en réseau et que nous, ben, on est là, je dirais, sans coopération réellement formalisée. Alors le pôle métropolitain Loire-Bretagne, c'est Rennes, Angers, Nantes, Saint-Nazaire et Brest. Vous voyez, c'est un pôle assez circulaire. Et cette carte, elle a le mérite de dégager les aires urbaines de Laval, ici, et la nôtre, notre agglomération, là. Voilà. Alors le film, je vais peut-être vous en faire grâce. Je passe, président, ou pas ? Je vais vous le passer. C'est un extrait de film qui a été que je suis allé chercher sur le site du pôle métropolitain Loire-Bretagne. Voilà. Il n'y a pas de son. On ne peut pas avoir de son. Ah ben, ça ne va pas être intéressant, il n'y a pas de son. Ça, c'est ballot. Bon.
Vous voyez à peu près ce qu'elle veut dire.
On pourrait parler à sa place. Bon, en clair, ce qui nous explique tous, c'est qu'ils ils se sont regroupés pour défendre leurs intérêts communs et que c'est dans l'intérêt du Grand Ouest. Évidemment, et que ça leur permet également, en tant que métropole mise en réseau, d'avoir une visibilité nationale et de peser au niveau national. Et j'ai effectivement pu constater sur leur site que quand on écrit au directeur régional de la SNCF, par exemple, pour demander des horaires de train, eux, ils écrivent au Premier ministre pour la desserte de leur gare. On mesure le hiatus qu'il peut y avoir. Voilà. Alors, le pôle métropolitain Loire-Bretagne, qu'est-ce que c'est ? C'est 1 700 000 habitants, 875 000 emplois et 200 000 étudiants. Nous, déjà, en réunissant la vallée vitrée, on est quand même à côté beaucoup plus modeste. Hein. On a 76 communes, eux, ils doivent en avoir 115 de mémoire. 195 000 habitants, 92 000 emplois et 3 500 étudiants. Les valeurs communes entre les deux territoires, c'est très certainement la philosophie partagée d'un développement basé sur l'économie. Je peux en témoigner, moi qui connais bien les deux côtés de la frontière. C'est une éthique du travail commune aux Mayennais et aux Bretons, une attention portée à la ruralité et un fort attachement à la solidarité et à l'humanisme social. Ce qui nous rapproche. Alors, je suis allé chercher loin, puisque le président m'avait dit que les sires et comtes de Laval étaient également barons de Vitré. Je n'ai plus eu qu'à chercher la date, c'est depuis 1251. Donc vous voyez qu'il y a effectivement des liens historiques entre Laval et Vitré. On partage un positionnement stratégique à la porte du Grand Ouest. L'A81 est quand même une infrastructure routière qu'on a en commun et qui est majeure pour eux comme pour nous. On a aussi la ligne Paris-Rennes, la ligne historique et la LGV, ce qui fait qu'on a les mêmes problématiques pour nos gares, qui peuvent toutes les deux être chintées par la nouvelle ligne. On a une proximité géographique, puisque depuis le 1er janvier 2019, le Pays de Loiron a intégré l'agglomération de Laval. Ils sont donc devenus nos voisins immédiats. Je vois Pascal qui hoche de la tête, elle en est toute proche. On a des voisinages et des coopérations étroites entre certaines de nos communes, Saint-Cyr-le-Gravelet et le Pertre. Joseph vient d'arriver, donc il arrive pour entendre parler de sa commune, c'est très bien. On a des compétences assez similaires de nos EPCI, puisqu'on est tous les deux des communautés d'agglomération. On a tous les deux une strate démographique entre 80 et 150 000 habitants, hein, pour info. Après avoir fusionné avec le Pays de Loiron, l'agglomération de Laval doit tourner à peu près autour de 115 000 habitants. Et on a une physiologie territoriale qui se ressemble quand même, avec une ville-centre, une première ceinture pour Laval et une seconde ceinture beaucoup plus rurale. Et depuis qu'ils ont le Pays de Loiron sur leur territoire, pour le coup, ils ont un arrière-pays et la ruralité pour eux devient aussi un sujet dont il faut qu'ils s'occupent. Faible taux de chômage, en Mayenne aussi, on cherche des travailleurs sur nos zones d'emploi à Vitré, c'est pareil. Et on a les mêmes problématiques de main-d'œuvre et de formation, puisqu'on a des caractéristiques d'entreprise qui sont assez industrielles. Et puis, à l'instar de Mayenne et Fougères, la vallée Vitrée figure parmi les 124 territoires d'industrie repérés et retenus par le gouvernement. Alors, quels objectifs ? L'idée, c'est de se regrouper d'abord pour défendre nos intérêts communs. Personne ne le fera à notre place. Pour se renforcer mutuellement et améliorer notre performance et notre attractivité grâce à nos complémentarités. Réussir l'aménagement durable de nos territoires en considérant nos espaces ruraux. On a une problématique commune là. Et activer une synergie d'alliance territoriale entre nos deux agglomérations. Le programme de travail qu'on a discuté avec eux, alors vous avez sans doute vu la convention, le programme de travail est défini annuellement par les assemblées. Le premier, il est relativement léger, mais il court jusqu'à fin 2020 normalement. Alors, sur la rubrique de l'objectif de défendre nos intérêts communs, c'est soutenir ensemble le projet de gare ferroviaire fret de Saint-Berthevin pour l'usage commun de nos entreprises. C'est peser sur les choix des régions, parce que du coup, on en a deux qui sont concernées, Pays de la Loire et Bretagne, et de la SNCF, pour maintenir les arrêts TGV et améliorer les correspondances TER, renforçant le trafic voyageur dans nos gares, toutes les deux lignes historiques, je le disais tout à l'heure, donc toutes les deux très faciles à chanter pour les arrêts TGV, puisque le TGV peut effectivement éviter nos gares depuis qu'il y a la nouvelle ligne. Et puis, la LGV traverse la Mayenne, traverse l'Ille-et-Vilaine, et on a le même problème de nuisance chez nous que chez eux. Sur l'objectif 2, l'idée, c'est de discuter pour mutualiser l'usage du projet de gare fret ferroviaire de Saint-Berthevin au profit des entreprises des deux agglomérations. Chez nous, on a renoncé, pour des raisons notamment de coûts, à aménager une plateforme fret. Il est vrai que dépenser autant d'argent à 30 km d'une plateforme existante et quasiment en lien direct avec un échangeur autoroutier, c'était un peu ridicule. Encore faut-il s'entendre sur les conditions d'accès pour nos entreprises de leur plateforme. Alors eux, elle leur coûte pas cher, puisque c'est une ancienne plateforme Eiffage aménagée pour la construction de la LGV. Donc ça préexistait, ils ont juste à rendre définitif certains aiguillages qui étaient provisoires pour le temps du chantier. Coopérer pour le développement de l'économie numérique sur nos deux agglomérations. Alors là aussi, c'est un enjeu qui est assez fort. À Laval, ils ont un label French Tech sur 9, c'est tout. Puisque jusqu'à il y a peu, seules les métropoles pouvaient obtenir le label French Tech. Nous, à côté d'eux, on est petits. Mais par exemple, Laval, l'année dernière, avait pour objectif de développer 12 start-up. Ils en ont fait la moitié de leurs objectifs. Donc on voit bien que même eux, tout seuls, n'ont pas la taille suffisante pour être assez puissamment armés sur le développement de l'économie numérique. Nous, on est encore moins forts, donc on peut espérer qu'ensemble, ce sera plus simple. Alors, vous vous rappelez quand même la visite qu'on avait faite sur leur thématique de labellisation French Tech, qui était la réalité virtuelle. Et par exemple, leurs entreprises industrielles peuvent aller de manière virtuelle tester leur ligne de production, leur projet de ligne de production. Donc, il y a quand même des services qui pourraient aussi intéresser nos entreprises. Ensuite, l'idée, c'était aussi de promouvoir mutuellement auprès des publics concernés l'offre de formation professionnelle et d'enseignement supérieur présente sur nos agglomérations. Pourquoi ? Le président l'a dit tout de suite, c'est vrai qu'il y a des facilités d'accès. On a beaucoup de TER et de liaisons entre nos deux territoires. Laval, c'est moins cher que Rennes. Et par exemple, à Laval, on peut préparer sa première année de médecine. On n'est pas obligé d'aller à Rennes. On peut aussi, je crois, je ne sais plus si c'est pas deux ou trois années de droit, les deux ou trois premières années de droit. Enfin, il y a un embryon quand même de formation supérieure qui permettrait à nos enfants du bassin vitréen de rester plus longtemps chez eux et aux familles de les envoyer faire des études à moindre coût. Alors, il y a un truc qui n'est pas dans la convention, ça nous semblait aller de soi, et puis ça pourrait être développé dans les années qui viennent, mais c'était aussi rendre visibles nos territoires et communiquer sur leur attractivité au carrefour du Grand Ouest. Parce que lorsqu'on a regardé la vidéo du pôle métropolitain Loire-Bretagne, On s'est rendu compte qu'ils le disent d'ailleurs, ils font les salons pour attirer des entreprises ensemble. C'est-à-dire qu'ils se réunissent pour leur attractivité et pour essayer d'attraper des entreprises. Ils ont fait le salon international de l'immobilier d'entreprise. La maire de Rennes, je regrette, vous n'avez pas vu le film. La maire de Rennes dit qu'ils se mettent ensemble pour chasser aussi les compétences pour leur pôle de recherche numérique. Enfin, on voit bien qu'ils n'hésitent pas à travailler ensemble, pas dans un esprit de concurrence, hein, mais dans un esprit de collaboration. L'objectif 3, c'était l'aménagement durable de nos territoires en considérant nos espaces ruraux. Donc là, nous, on a un sujet qui est un sujet, certes, d'actualité, qui est celui des mobilités. Et eux ont le même. Alors, ils avaient déjà un plan de mobilité d'agglomération. Maintenant que leur territoire s'est élargi, ils vont devoir certainement le retravailler. Et nous, vous savez qu'on a pour projet d'en lancer un en fin d'année, début d'année. Là. Coopérer économiquement ensemble pour développer de concert les zones d'activité de la Gravelle et Bréal sous Vitré, avec une idée simple. Si on a une entreprise et un prospect intéressant et qu'on n'est pas en mesure de l'installer chez nous, bah, vaut mieux qu'il soit à la Gravelle, à côté de Bréal et de notre territoire, que de l'autre côté de Rennes, par exemple. Favoriser les coopérations communales en bordure de nos limites géographiques. Bah, si ça se développe, c'est bien. On voit bien une coopération assez exemplaire, Saint-Cyr-le-Pertre, avec l'assainissement que vous avez en commun. Vous aviez quoi encore en commun ? Plein de choses, hein. Bon, voilà. Jusque-là, c'est vrai que ça ne s'est pas beaucoup fait, mais si ça se passe comme ça et qu'on peut avoir une sorte de mutualisation entre communes, c'est bien. Faut pas mettre des frontières partout. Alors ensuite, les projets qu'on pourrait imaginer pour aller plus loin, même s'il n'y a que le gras qui pour l'instant est dans la convention, c'est on pourrait imaginer un volet coopératif interterritorial à nos projets de territoire. On pourrait imaginer d'échanger régulièrement sur les politiques en faveur des espaces ruraux. Ça, c'est simple à mettre en œuvre. Coordonner nos politiques de transport scolaire. Souvenez-vous qu'on avait des problèmes quand nos cars sortaient de notre territoire pour aller ramasser les petits Mayennais et les emmener à la Guerche. Et mettre en commun nos projets de PCAET, parce qu'ils ont les mêmes problèmes que nous. L'air qui est à Vitré, je crois savoir qu'avec le vent d'ouest, il doit aller un petit peu vers Laval. Et la transition énergétique. Donc, vous voyez qu'on a plein de sujets en commun. Enfin, sur le dernier objectif, on pense initier des groupements de commandes entre nos EPCI, organiser un séminaire annuel des élus de nos assemblées délibérantes, de façon à ce que les gens se connaissent, parce que pour échanger, c'est quand même mieux et plus facile quand on se connaît. On pense mettre aussi en œuvre des forums d'échange de pratiques entre les équipes administratives et techniques. Ça nous donnera le plaisir de revoir Céline Dourdin, par exemple. Et on peut créer aussi des groupes de réflexion sur d'autres sujets d'intérêt commun qu'on n'a pas forcément inscrits dans cette première approche d'une collaboration. Le cadre juridique, je vais passer très vite, c'est le cadre juridique des ententes. Une entente, c'est quoi ? C'est tout simplement une convention. Cette convention, elle est passée sur simple délibération des deux conseils de communauté. N'a pas à demander l'avis du préfet, ni à demander l'avis des communes, dans la mesure où l'entente n'a aucune personnalité morale ni pouvoir autonome. C'est-à-dire que tout ce qu'elle fait, c'est des délibérations concordantes des deux assemblées. Alors, il faut savoir qu'on a prévu une sorte de convention mère qui organise nos rapports, et que si on fait des choses ensemble avec des conséquences juridiques et financières, eh ben on déclinera ça en convention opérationnelle. D'accord ? Comme ça, c'est simple. Ben voilà, en fait, oui, je vais me répéter, mais c'est une collaboration souple. Un contrat, on peut le commencer, on peut l'arrêter, il suffit de s'entendre. Et en fait, on aborde quatre thématiques majeures qui sont assez stratégiques pour nous et pour eux. C'est transition énergétique, mobilité, enseignement supérieur et formation, développement numérique et nouvelle économie, et un marketing territorial pour promouvoir l'attractivité de nos territoires quand on a intérêt à se rassembler pour le faire. Alors effectivement, voilà l'article, je suis désolé, c'est pas, mais voilà l'article de Ouest France. Ils ont délibéré le 16 septembre et ils ont expliqué à leur opposition que ce n'était pas une concurrence, avec Vitré, mais une complémentarité.
On peut lire ce qu'ils disent.
Oh, il ne s'agit pas des lumières de Laval, mais d'un spectacle son et lumière projeté sur le château de Vitré. Encore un point commun entre Laval et Vitré. Les élus de Laval Agglomération ont décidé lundi 16 septembre de développer une coopération intercommunale avec Vitré Communauté. Et si Laval Agglomération se rapprochait de ses cousins de Vitré Communauté, c'est le souhait des élus mayennais. Les élus de Laval Agglomération ont donné leur feu vert lundi 16 septembre à une coopération de ces deux territoires. Un pas en direction de Vitré, positionnement géographique, infrastructure, secteur économique. Nous sommes deux territoires avec de nombreux points communs. Nous voulons développer une coopération intercommunale, indique Françoise Occhietto, président de Laval Agglomération. Les élus de Laval Agglomération ont donné leur feu vert à une coopération entre les deux territoires. Il ne s'agit pas de créer une structure nouvelle, précise Françoise Occhietto. Yannick Borde et Nicole Bouillon seront les représentants de Laval Agglomération auprès de Vitré Communauté. Alors, 100 ans plus Françoise Occhietto, ça fait 3, puisque les textes déterminent qu'on a 3 représentants chacun. Avec la fusion de Laval Agglo Pays de Loiron, Vitré s'était déjà rapproché de la Mayenne. Moi, je pense plutôt que c'était un peu l'inverse. On ne vit pas une concurrence avec Vitré, mais une complémentarité. Il n'y a pas d'opacité, assure le président de Laval Agglomération, en réponse à Aurélien Guillot, élu communautaire d'opposition. Voilà. Voilà, président.
Merci pour cette présentation très didactique. Est-ce que vous avez des observations et des questions à poser? Étant oui.
Merci. Oui, parce que ça m'inspire. Moi, je découvre complètement le dossier. Ce que ça m'a inspiré, c'est qu'on traverse quand même une frontière invisible qui est dans l'esprit de chacun. Et la question que je me posais, est-ce que ça peut poser, est-ce que ça peut causer quelques préjudices, voire de la concurrence vis-à-vis du côté de la Bretagne et particulièrement avec Rennes?
Il faut savoir que si on veut une politique d'aménagement équilibré du territoire, il ne faut être pas 42 à discuter avec l'autre. Il faut être organisé. Il y a 6 mois, Redon a décidé de s'unir, pareil, avec une entente, entre 13 communautés, de Redon à Guerre, de Guerre à Ancy, d'Ancy à Châteaubriant. 13 communautés pour travailler ensemble. Alors, on va me dire pourquoi. Parce que quelquefois, les gens ont le sentiment d'être ignorés. C'est un point important. Je donne un deuxième exemple. Rennes, très bien, va faire 560 millions d'euros sur l'hôpital. Rien à redire. Simplement, prévoyons bien l'avenir. Que le ministère de la Santé et d'autres ne disent pas, dans 6 ans, quand cet investissement sera fait, oh, Redon, Fougères, Vitré, pourquoi maintenir la maternité et la chirurgie? Donc, si vous n'êtes pas en négociation capable de coopérer, vous avez le sentiment parfois de ne pas être capable de faire fructifier vos... Puis il y a un autre élément qui est ressenti à Redon comme ailleurs, c'est vraiment de parvenir dans l'Ouest. Dans l'Ouest, parce que ces communes, un aménagement plus équilibré du territoire. Parce que le maillage territorial est un levier de compétitivité et de solidarité. Et il ne faut pas oublier aussi le temps de transport. Si demain le temps de transport doit être 1h10 le matin, 1h10 le soir, pour gagner 1380 euros par mois, vous êtes sûr que ces familles ne sont pas vraiment dans une situation enviable. Voilà plusieurs raisons, et vous voyez bien que, compte tenu de ce phénomène de métropolisation, qui est une donnée, d'autres territoires, je pense par exemple autour de la ville de Troyes, il y a 3 territoires qui se sont associés pareil, de façon à mieux travailler ensemble, mais aussi peser sur les décisions. Donc, on reste en Bretagne.
Oui. Oui, moi je rêvais qu'on embarque Fougères avec nous.
Oui, Laval a estimé que dans une première étape, je suis tout à fait d'accord avec toi, et il faut le faire. Mais commençons à travailler, dit Laval, et dans un deuxième temps qui ne sera pas éloigné, parce que c'est l'espoir de Fougères aussi de venir travailler avec nous. Et je n'élimine pas le bassin de Mayenne, qui peut se sentir isolé, et là aussi, le bassin de la ville de Mayenne. Mais pour ne pas aller trop vite, ils nous ont dit réfléchissons d'abord, et puis dans quelques mois, on travaillerait avec nos voisins. Autre observation ? Oui.
Oui, moi je suis très favorable à cette association. Cependant, je m'interroge sur, c'est une vision stratégique qui n'est pas pour aujourd'hui, qui est pour un certain long terme. Or, je ne vois pas d'études stratégiques qui aient été faites, et même s'il faut s'engager, il me semble qu'on n'a jamais mis sur la table quelles étaient les forces et les faiblesses de notre PCI, de notre vitrée communauté. Il y a beaucoup de forces, on se cajole avec ça, mais nous avons aussi des faiblesses et on ne les a pas analysées. Je pense que de la même façon en termes de stratégie, est-ce qu'on a réfléchi aux forces et aux faiblesses d'une telle association ? Ceci étant, ça c'est quand on regarde sur nous-mêmes. Or, on n'a pas beaucoup regardé sur nous-mêmes pour se rendre compte comment on tenait bien sur nos pieds en termes de forces et faiblesses. Et derrière, il faut après regarder ce qu'il y a autour de nous. Et j'ai l'impression que, en termes de opportunités et menaces, c'est une vraie opportunité. Mais la menace, on la sent venant de Rennes, on la sent venant de ces grandes agglomérations et d'un certain pouvoir qui oublie les 30% de personnes qui vivent à la campagne. Mais je ne comprends pas qu'on ne cherche pas à imaginer, dans un monde de menaces qui nous entoure et où on a des faiblesses pour pouvoir les contrer, on n'a pas réfléchi aussi comment on jouait nos deux EPCI pour pouvoir, avec malgré nos faiblesses et nos forces internes, en fonction des opportunités qu'il y a à l'extérieur, et retourner les menaces pour jouer avec. Alors, l'inconvénient, donc moi je suis très favorable, mais je regrette qu'on n'ait pas réfléchi à fond dans une vraie étude stratégique. L'inconvénient aussi que je vois, c'est que ce sont des stratégies où les cibles sont mouvantes. C'est toujours comme ça. Et là, on voit bien que ce qui se passe avec notre grand voisin rennais, je me dis, est-ce que demain, dans un monde qui va, il y aura des élections, un monde qui évolue, un monde économique, un monde administratif et tactique qui évolue très fortement, on n'a pas assez, à mon avis, réfléchi à ces opportunités et menaces avec Rennes Métropole. Voilà. Donc moi, je suis pour, mais je pense qu'on s'engage, je pense qu'il faut le faire, mais on s'engage sans avoir assez pris, assez de recul. Si on a un pépin demain, on ne l'aura pas senti. Qu'il y ait un caillou sur la route, pourquoi pas, mais s'il y a un rocher, on ne l'aura pas assez analysé.
Bon, sur ces deux points, l'étude, ça va être engagé. On connaît à peu près les faiblesses et les forces de chacun de nos territoires, mais je partage, c'est un premier travail des 6 prochains mois sur forces et faiblesses. Le deuxième élément, quid de la coopération avec Rennes ? Moi, je le souhaite. J'ai été rencontrer le président Couet pour dire Rennes pourrait être une sacrée référence en Bretagne si on parvenait à une meilleure répartition du développement. Dans l'intérêt des populations, aussi bien de Rennes, pour que Rennes évite demain pollution, temps de transport, encombrement, prix du logement qui élimine les classes populaires. Et puis les autres territoires pour éviter paupérisation, distance de transport et puis sentiment de délaissement des services publics. Donc je crois que dans cette situation, je l'ai dit, mais pourquoi Rennes Métropole ne pourrait pas prêter l'origine d'une politique d'une datar bretonne, une datar bretonne, on se met autour de la table et plutôt que concentrer 4000 emplois, 5000 emplois là, on le répartit comme l'avait fait Olivier Guichard dans les années 50-60. Lannion, ça a été une décision politique. Quand on a rapatrié Dolnay, Citroën, ARN, ça a été une décision politique. Là, il faut y parvenir dans l'intérêt. Et il y a une étude extrêmement intéressante qui a été faite par l'Observatoire, non, ça n'a pas d'importance, l'OTSI, qui a fait une analyse sur 30 critères, 15 critères de performance économique et 15 critères de performance sociale. Cette étude a analysé sur ces 30 critères le classement des 21 régions françaises. Sur les critères de performance économique, l'Île-de-France était première, mais seulement 20e sur les critères de performance sociale. Et quand on faisait l'addition, quelle était la première région française qui apparaissait ? Les Pays de Loire, suivi de la Bretagne et de l'Alsace. Et cette étude dit ceci, la force du Grand Ouest, c'est pas seulement deux métropoles nécessaires, mais un réseau de villes moyennes et de petites villes bien liées à son tissu rural. Et nous, c'est notre objectif, d'avoir ce réseau de petites villes, de villes moyennes, bien liées à son tissu rural, qui permettent d'avoir un équilibre. Moi, je prends un exemple concret que j'ai vécu. Quand on avait décidé, une entreprise japonaise, de venir en Bretagne, c'est l'entreprise Sanden, elle voulait venir à Vitré, ou à Torcé, ou à Étrel. J'étais président du conseil départemental, déjà en disant, mais il y a beaucoup de choses à Vitré. Elle est allée soit au Grand Fougeret, soit à Tintignac. Aujourd'hui, 1200 personnes de cette entreprise à Tintignac et Combourg, ça a changé toute la vie des communes rurales. Donc, c'est un petit peu l'ambition qu'on a, mais de se mettre organisé. Et nous allons travailler avec Redon, Chateaubriand, Guerre, qui ont la même vision d'avenir. Voilà un petit peu pour répondre à cette question et de cette discussion. Est-ce qu'il y a d'autres observations ? Donc, vous avez un papier qui va vous être proposé, un bulletin secret. Pour le moment, sont candidats les deux présidents de communauté, mais celui de Vitré, pour le développement économique Teddy Régnier et Pascal Cartron, justement, pour faire cette liaison entre les communes périphériques de nos deux communautés. Nous commencerons à travailler pour répondre à ta question, Pierre. Dans le mois de février-mars, nous dirons déjà, pour répondre à vos observations, le travail que nous aurons à faire ensemble.
Il y a deux délibérations. Oui, Président, il y a deux délibérations quand même. La première pour approuver le principe de la convention, donc il peut peut-être se faire à Malvé, peut-être, et la deuxième, effectivement, pour la nomination des trois délégués.
Donc, est-ce que vous êtes d'accord sur cette orientation d'une coopération dans une première étape avec nos territoires, sans oublier demain Fougères ou Mayenne ? Ceux qui sont favorables à cette orientation et à ce projet veulent bien lever la main. Merci, abstention. Contre, il n'y en a pas, je vous remercie. Donc, si vous pouvez maintenant répondre au bulletin secret, c'est obligatoire et c'est souhaitable. Merci.